c'est épuisant. Le temporaire est épuisant. On est tous dans, dans la même démarche et c'est juste le besoin d'habiter.
Quand vous êtes dans la rue, vous n'avez pas d'amis.
C'est du chacun pour soi. On est individuel, on est un individu dans la ville.
Donc on paye un loyer de 600 euros et vous devez vivre dans l'indignité et tout en leur disant merci beaucoup.
Habiter.
C'est épuisant. Le temporaire est épuisant. Je pense aussi individuellement dans mes projets ou dans ce que j'ai envie de faire, dans mes études, dans juste le fait de trouver un travail aussi, d'avoir une stabilité. Le temporaire m'empêche de ça. Je suis arrivée à Bruxelles, je voulais me domicilier, c'était pas possible parce que j'étais en occupation. Après, je l'ai fait quand j'habitais en location, mais là, il y a eu toutes les affaires avec la crise sanitaire, le Covid, j'ai jamais pu me domicilier. Et là, en fait, je suis dans ce vide où j'ai besoin d'un numéro d'identification nationale pour travailler, pour avoir une mutuelle, pour avoir accès à des soins. Sauf que comme j'ai pas d'adresse, je peux pas. Et donc là, il y a plein de trucs qui bloquent. Et ça, c'est fatigant. Et puis après, je pense, émotionnellement, ma charge, j'arrive pas à être pleinement ouverte dans les trucs que j'ai à faire parce qu'en fait, j'ai pas la sécurité du toit. Et ça, c'est difficile à vivre. Je suis fatiguée de ça. C'est pour ça, je pense aussi, j'ai un peu envie de me battre pour cet endroit parce que... Ouais, je suis fatiguée. Je m'appelle Manon et j'occupe maintenant dans des bâtiments depuis plus de 7 ans. Et je suis encore étudiante. J'étudie la forge à Bruxelles depuis 5 ans maintenant. Et l'habitat temporaire, j'ai atterri là-dedans d'abord par conviction politique et militante. Et puis après, c'était plus la nécessité du logement et la précarité financière dans laquelle j'ai été installée, qui a fait que je me suis tournée vers cette manière d'habiter là. Je suis arrivée sur Bruxelles. Là, je savais pas trop vraiment où me loger et j'arrivais un peu... Ouais, je déboulais vraiment sur Bruxelles du jour au lendemain. Et donc là, j'ai été accueillie dans une occupation aussi. Où ça s'est très mal passé, hein. Je suis partie, puis après je suis retournée en location, où je suis restée 3 ans. Et après là, juste les moyens financiers ont fait que je pouvais plus du tout rester dans cette location, plus du tout. Et du coup, je me suis retournée vers l'occupation temporaire précaire. Et donc avec Clémence, là, on a ouvert un autre bâtiment. Et du coup, là, on a pu rester 8 mois aussi, mais... parce qu'il y avait le moratoire qui empêchait les expulsions. Et donc, on a eu le jugement le 2 mars de cette année. Et là, le juge était allergique aux squatteurs. C'est ce qu'il a dit. Du coup, il a annulé sa requête. Il a annulé la requête contradictoire en disant qu'elle n'était pas recevable, que s'il y avait quelqu'un qui devait faire quelque chose pour loger des gens, c'était des institutions. C'était pas à nous de prendre ce parti-là. Et donc, du coup, c'était l'expulsion immédiate avec des frais de justice assez élevés à notre charge. On en a eu pour presque 2000 euros. Et donc, on est parti. Et puis après, j'ai occupé un autre bâtiment qui était déjà ouvert, qui était conventionné, semi-conventionné, parce qu'on n'avait rien signé, mais on avait l'accord du propriétaire. Et là, ça finit en décembre. Du coup, il fallait trouver une solution de repli. Donc maintenant, notre occupation à Saint-Gilles. Le squat a une image hyper dure, où tout de suite, au drapier, quand on avait occupé, il y avait la compagne du propriétaire qui était venue nous rencontrer, qui s'était fait passer pour quelqu'un d'autre, mais qui était venue avec son frère et un ami de son frère qui était champion de taekwondo, prêt en fait à peut-être en venir aux mains avec nous, parce qu'il ne savait pas sur qui il allait tomber. Donc là tu te demandes, bon, ben, dans l'imaginaire de l'autre, c'est quoi l'image du squatter? L'image de la personne qui habite chez toi. Chez toi, et en même temps, c'est pas chez toi parce que tu es propriétaire d'un bien, mais tu y habites pas. Et ça, il y a une différence entre le domicile juridique et le domicile de fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans une occupation temporaire, une commune ne peut pas refuser la domiciliation parce qu'il y a des affaires et que tu dors là vraiment. Donc en fait, même si la commune parfois va faire des moyens de pression de « il me faut un bail », il me faut une preuve que tu as l'accord du propriétaire. C'est pas vrai. Avec un avocat, on peut faire une mise en demeure et habiter, enfin, et être domicilié. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le délai que nous a laissé le propriétaire pour partir. Donc, ça fait 4 semaines qu'on est ici. Et là, je vais travailler durant 3 semaines. J'ai 3 semaines de travail à faire. Et je sais que si on subit une expulsion pendant ces 3 semaines, mentalement, ça va être horrible de me dire « faut que j'assure au travail, j'ai ces horaires-là à faire, et le soir, ben, ok, les copains, ils vont vider la maison, mais où mes affaires, elles vont aller? Où c'est que je vais dormir? Comment je vais faire pour être à l'heure le lendemain ?» Ça me stresse.
Je m'appelle Clémence, et un peu comme Manon, j'ai vécu dans diverses occupations depuis plusieurs années, entrecoupées de moments où je payais mon loyer, et ça, c'était lié à ma situation de vie, soit liée à mon travail, soit par choix, parce que j'allais souvent bouger. Après, l'année dernière, je me souviens que quand on savait qu'on allait se faire expulser des drapiers, un ami nous avait proposé aller de faire un super dossier qui nous aiderait en amont pour conventionner un bâtiment. Et en fait, j'ai ressenti une sorte de malaise en faisant ce dossier parce que, en fait, on avait pris des jolies photos, c'était plutôt bien écrit, mais en fait, il y avait quelque chose que je trouvais limite un peu élitiste et j'avais l'impression que dans le sens où on savait que ça allait faire bonne figure, on savait que ça allait plaire, mais c'est comme si on disait, c'est comme si grâce à nos privilèges, parce que peut-être on sait bien écrire, on allait rentrer dans ce jeu, en fait, c'est pas vraiment un jeu, mais plaire, séduire les différents acteurs du logement. Et donc, du coup, dans ce dossier, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, parce qu'en fait, c'était en quelque sorte nous créer une sorte de légitimité. Et puis, les gens qui n'ont pas du tout ces outils-là, eh ben, on les relègue à des statuts de squatteurs, ils n'ont pas les outils pour se défendre. Du coup, je trouve qu'au sein de ce milieu-là, il y a un fossé quoi, entre nous qui sommes plutôt privilégiés et d'autres gens qui ne le sont pas. Et du coup, ça, je me sentais un peu... je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Quoi. Enfin, pour moi, ça parle un peu de l'image du squatteur, mais du coup, justement, comme on en fait autre chose en ce moment, des fois, je suis rattrapée par ce genre de culpabilité, mais c'est plutôt sociétal. Enfin, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais... Un des enfants là, du propriétaire actuel, enfin non, le propriétaire est décédé, il a dit à une voisine au téléphone qu'on était des gauchistes privilégiés, qu'on voulait faire...
De la redistribution des biens. Voler aux riches pour donner aux pauvres.
Voler aux riches pour donner aux pauvres. Et en fait, bon, pourquoi pas? Mais quand il a dit ça, ça nous a donné encore plus envie d'aller aux justices. Mais c'est vrai que des fois... Je pense juste qu'il y a différentes narrations par rapport à ça. Mais des fois, ça me touche. Et oui, ça questionne cette légitimité-là. Elle se retrouve questionnée pour moi, quoi. Mais au fait, quand j'habitais en Angleterre, il y a quelques années, j'ai tellement travaillé. J'ai tellement... pour payer des loyers assez chers, plus chers qu'à Bruxelles. Mais en fait, c'est aussi un choix de se dire, OK, moi, dans ma vie, je suis encore en train d'apprendre des choses, donc que ce soit la forge pour Manon ou moi, le cirque, d'autres choses. Et j'ai envie d'avoir ce temps pour me former, pour continuer à apprendre. Et à côté, j'ai pas envie de travailler à l'usine, je l'ai fait beaucoup, pour pouvoir ensuite me payer un logement décent à 500 euros, quoi. Et ensuite avoir plus grand-chose à la fin du mois. En fait, il y a aussi cette réalité-là. Et c'est un choix... Et du coup, pouvoir aussi choisir quand je travaille. Et donc, du coup, ça ouvre à d'autres questions. Et c'est pour ça que je sais que c'est des questionnements un peu privilégiés, quoi. Mais que je, dont j'essaye d'être transparente et d'oser en parler, même si je trouve pas ça facile, quoi. Mais ouais. Même si c'est intense et fatigant, cette émulsion collective, moi, je la trouve prenante et des fois, c'est fatigant, mais ça rajoute un peu de sens dans la vie qui est parfois pas forcément pleine de sens, parfois. Bon, c'est intense, du coup. Tout est sur le fil, un peu, donc... Mais en même temps, c'est hyper fatigant. Il y a des jours, en fait, je me dis, mais pourquoi ?
Même si là, à l'heure actuelle, je sortais de ma précarité financière, je pense que je continuerai quand même à occuper des bâtiments et ou quand même à participer à ça, à aider des groupes qui le font. Parce que pour moi, c'est important. C'est une cause qui me tient à cœur. Et je pense que quand tu rentres dans ce milieu-là, que tu commences à voir juste les enjeux et tout ce qui s'y passe, c'est difficile de faire comme si ça n'existait pas. Quand je vois... Parce qu'en fait, on a des réseaux d'entraide, il y a le groupe Interoccupation. En fait, quand tu vois tous les mails que tu reçois la journée parce qu'il y a une expulsion sauvage, parce qu'il y a une expulsion qui va avoir lieu, un jugement, ou juste « Ah, telle personne se fait expulser, telle personne a besoin d'un toit, est-ce qu'on peut faire de l'accueil temporaire, de l'accueil d'urgence ?» En fait, les mails, c'est tous les jours, tout le temps. Et le dernier squat où on habitait, on faisait de l'accueil d'urgence et de l'accueil temporaire. Et en fait, ça met dans des situations tellement compliquées où les gens y pensent venir pour 4 jours. Mais en fait, c'est impossible d'accueillir quelqu'un en se disant c'est que pour un mois, c'est que pour le temps d'autre chose, parce que l'autre chose, il est tellement incertain. En fait, tu te retrouves à habiter avec des gens. T'as pas forcément choisi d'habiter avec eux, mais juste, on est tous dans la même démarche et c'est... C'est là, quoi. Juste le besoin d'habiter. Parce que du coup, je pense que la précarité de l'habitat, ça met juste dans une situation où ça t'aide pas à sortir d'une précarité financière. En fait, c'est un peu une boucle. Je pense que c'est une boucle temporelle. Mais je continuerai à aider, à ouvrir des bâtiments. Et à négocier. Et j'aime bien aussi, je pense, dans le fait de rencontrer aussi l'autre. Parce qu'en fait, il y a plein de débats au sein de l'ouverture du squat. Est-ce qu'il faut conventionner avant d'ouvrir ? Est-ce qu'il faut ouvrir le bâtiment ? C'est quoi le fait d'occuper des bâtiments vides ? Ces propriétaires, c'est qui ? C'est des privés ? C'est des communes ? C'est des promoteurs ? Mais quand on négocie avec le propriétaire, en fait, on va planter une graine de « c'est possible, ça existe, la convention, regardez, c'est pas l'image du squat qu'on se fait ». À partir du moment où il y a tes affaires et que tous les soirs tu dors là, c'est chez toi. Et c'est là aussi où c'est compliqué avec les propriétaires parce qu'ils ne comprennent pas du tout ça. Du coup, ils sont là, ben c'est chez moi, c'est illégal. Tu es dans une situation illégale, je vais pas donner de droits là-dedans. Alors qu'en fait, on a des droits. On ne peut pas juste... Oui, on ne peut pas juste être expulsé. Mais ça arrive quand même, hein. Ça arrive.